السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے
Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Moussa bin Umair. Moussab bin Umair appartenait au clan Banu Abdiddar des Quraishites. Son nom d'emprunt était Abu Abdillah. Il était aussi connu comme Abu Muhammad. Le père de Moussab se nommait Umair bin Hashim et sa mère se nommait Hanas ou Khanas bin Malik. La mère de Umair était une femme riche de la Mecque. Les parents de Moussab bin Umair aimaient beaucoup ce dernier. Sa mère l'avait comblé durant son enfance. Elle le vêtait de vêtements de haute qualité. Moussa bin Umair utilisait des parfums très chers et des chaussures de Hadramaut, des chaussures qui étaient fabriquées que pour les riches. Hadramaut est une grande région côtière à l'est d'Aden. En tout cas, Moussa bin Umair portait des vêtements de très grande qualité. Il se parfumait avec du parfum de haute qualité. Et même ses chaussures venaient de l'extérieur. La femme de Moussa bin Umair se nommait Hamina bint Jahash. Elle était la sœur de Zainab bint Jahash, la mère des croyantes et l'épouse bénite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se nommait Hamina bint Jahash et de leur union est née une fille nommée Zainab. Lorsque le saint prophète Mohammed lui évoquait Moussa bin Umair, il disait: je n'ai pas vu de personne aussi beau et aussi nanti que Moussa bin Umair. Moussa bin Umair faisait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed lui, et il était aussi parmi les tout premiers musulmans. Moussab avait embrassé l'islam lorsque le saint prophète Mohammed lui prêchait son message à la Dar-e Arqam. Mais Moussab n'avait pas dévoilé sa conversion par peur de sa mère et de sa tribu. Il se présentait au saint prophète Mohammed lui en cachette. Un jour, Ousmane bin Talha l'a vu accomplir la salat et il est parti informer sa mère et ses proches. Sa mère l'a séquestré jusqu'au moment où il a pu leur fausser compagnie pour se rendre en Abyssinie. Après quelque temps, certains émigrants sont retournés à la Mecque et Moussa bin Umair les a accompagnés. Quand sa mère a vu son état déplorable, eh bien, elle a mis fin à son hostilité d'antan et l'a laissé faire. Moussa bin Umair a eu l'occasion d'accomplir deux émigrations, la première en Abyssinie et la deuxième à Médine. Saad bin Abi Waqqas relate « J'ai vu Moussa bin Umair durant ses jours de richesse et après sa conversion à l'islam. Il a enduré tant de souffrances pour la cause de l'islam que sa peau s'enlevait de son corps comme un serpent qui faisait sa nuit. Ainsi donc, ses compagnons ont laissé des exemples sublimes de sacrifices. » Un jour, Moussa bin Umair s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed lui qui était parmi ses compagnons. Moussa portait des vêtements rapiécés avec des morceaux de peau, alors qu'il portait naguère des vêtements onéreux. Voyant son état, les compagnons ont baissé la tête. Ils ont baissé la tête car ils ne pouvaient pas lui venir en aide dans son malheur. Quand Moussa bin Umair a présenté ses salutations, eh bien le saint prophète Mohammed lui a répondu en louant Dieu. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Alhamdulillah ». Toutes les louanges appartiennent à Allah. J'ai vu Moussa bin Umair au temps où il était le plus nanti de la Mecque. Il était l'enfant préféré de ses parents. Or, l'amour pour Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait tomber dans cette condition. Il a abandonné la richesse pour le plaisir d'Allah. Saad bin Abi Waqqas relate « Le saint prophète Mohammed avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où Moussa bin Umair était riche et en voyant sa condition suite à ses sacrifices. » Le saint prophète Mohammed s'est souvenu de sa condition d'antan. Ali relate, nous étions assis dans la mosquée en compagnie du saint prophète Mohammed lui quand Moussa bin Umair est entré. Il portait un manteau rapiécé avec des bouts de peau. Quand le saint prophète Mohammed lui l'a vu, il avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où il était riche et en voyant sa condition présente. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré « Quelle sera votre condition lorsque, le matin, l'un d'entre vous portera une rechange de vêtements et une autre le soir ?» C'est-à-dire, vous serez si riche que vous changerez de vêtements matin et soir. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « On vous présentera un plat » et on en élèvera l'autre qui était devant vous. C'est-à-dire que vous consommerez une multitude de plats, comme c'est la tradition aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed a ajouté, il y aura des rideaux dans vos maisons, comme c'est le cas pour la Kaaba, c'est-à-dire que vous utiliserez des rideaux coûtant très cher. Il a décrit là la richesse dans laquelle vivront les musulmans. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre situation sera-t-elle meilleure que celle d'aujourd'hui? Serons-nous libres afin de pouvoir rendre culte à Dieu? Si nous serons aussi riches, nous pourrons à loisir rendre culte à Dieu et il ne sera plus nécessaire de travailler. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu non. Votre situation présente est meilleure, vos actes d'adoration et votre niveau sont bien meilleurs que ceux de cette époque de l'aisance. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib a décrit cette émigration en Abyssinie. J'en avais fait mention dans le passé en évoquant d'autres compagnons. J'en fais mention de nouveau ici brièvement. Au cours du mois de Rajab, en la cinquième année de son prophétat, 11 hommes et 4 femmes ont immigré en Abyssinie sous les directives du prophète d'Allah. Moussa bin Omer faisait partie de ce groupe de personnes. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib écrit: il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Quraychites. Rares étaient ceux qui étaient issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Quraychites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les Quraychites fulminaient de rage quand ils ont appris que cette proie s'était extirpée de leurs griffes. Ils ont envoyé leur agent à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, eh bien, le bateau était déjà parti et ils sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité, ayant prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Quraychites. Lors de la première Bayra d'Aqaba, 12 individus de Médine ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils retournaient, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Moussa bin Omer afin qu'ils puissent leur enseigner le Saint-Coran et l'Islam. Moussa bin Omer était connu comme le Qari ou le Muqri à Médine. Selon un autre récit, les tribus Aws et Khazraj, de parmi les Ansar, ont demandé au saint prophète Mohammed bin Sassoui de leur envoyer un enseignant. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui leur a envoyé Moussa bin Omer. À Médine, Moussa bin Omer a logé chez Asad bin Darara et il dirigeait les prières. Moussa a logé chez Asad bin Darara pour un certain temps. Par la suite, il a logé chez Sa'ad bin Mu'adh. Bara' bin Azib relate ceci. Les tout premiers compagnons émigrants s'étant rendus à Médine étaient Moussa bin Omer et Ibn Umm Maktoum. Une fois à Médine, tous deux ont commencé à nous enseigner le Saint-Coran. Ensuite, Ammar, Bilal, Sa'd sont venus à Médine. Par la suite, Omar bin Khattab, accompagné de 20 compagnons, sont venus eux aussi à Médine. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui est venu par la suite. Jamais les Médinois n'étaient aussi contents que le jour où le saint prophète Mohammed bin Sassoui est arrivé à Médine. Les garçons et les filles chantaient: vous êtes le prophète d'Allah et vous êtes venu chez nous. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib raconte ceci. Il dit ceci à propos de Moussa bin Omer, que ceux qui ont embrassé l'islam à la Dar et Arqam sont considérés comme les premiers musulmans. Les plus connus parmi eux sont Moussa bin Omer, qui appartenait au clan Banu Abd Dar. Il était très beau et il était très aimé par les membres de sa famille, et il avait été envoyé comme premier missionnaire à Yathrib avant l'émigration du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'islam s'est répandu par son entremise à Médine. Selon un autre ouvrage de la Sira, Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière de Jumma à Médine avant l'émigration. Avant la deuxième Bayra d'Aqaba, Moussa bin Omer a demandé la permission au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de diriger la prière de Jumma à Médine. Et le saint prophète paix soit sur lui lui en a donné la permission. Moussa bin Omer a dirigé la première prière de Jumma dans la maison de Sa'd bin Khaisama à Médine. 12 individus de la ville étaient présents. Ils avaient égorgé une chèvre pour l'occasion. Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière du vendredi en islam. Mais selon un autre récit, c'était Abu Amama Asad bin Zarara qui était le premier à diriger la prière du vendredi à Médine. En tout cas, Moussab était le tout premier missionnaire. Moussab et Asad bin Zarara ont visité les différents quartiers des Ansar afin de prêcher le message de l'islam. Et grâce aux prédications de Moussab, nombre de compagnons ont embrassé l'islam, dont certains des plus éminents, à l'instar de Sa'd bin Mu'adh, Abad bin Bishr, Muhammad bin Maslama et Usayd bin Hudayr. Hazrat Musab Bashir Ahmad Saab relate les efforts accomplis par Moussa bin Omer en ces termes. Il déclare, en partant de la Mecque, les 12 nouveaux convertis musulmans ont dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, veuillez envoyer un précepteur avec nous qui pourra nous enseigner l'islam et qui pourra également prêcher l'islam à nos frères idolâtres. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé Moussa bin Omer, un jeune homme très pieux de la tribu Abdudar, avec eux. Un prédicateur islamique était appelé Qari ou Mokri à l'époque, car la majorité de son travail consistait à réciter le Saint-Coran, car c'était la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussab bin Omer était également connu comme Mokri à Yathrib. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Moussab bin Omer a logé dans le domicile d'Asad bin Zarara, qui était le tout premier musulman de Médine et qui était un dirigeant très sincère et influent. Sa maison a été transformée en centre de prédication et Moussab a commencé à exercer ses fonctions avec diligence. Étant donné que les musulmans de Médine vivaient une vie collective et que la ville était relativement plus paisible, sur la proposition d'Asad bin Dorara, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné à Moussab bin Omer de commencer à accomplir la prière de Jumma, et ainsi les musulmans ont commencé leur vie en tant que communauté unifiée. Les bénédictions d'Allah étaient telles qu'en peu de temps, l'islam a gagné en popularité dans chaque foyer de Médine. Et les Haus et les Khazraj ont commencé à accepter l'islam très rapidement. Dans certains cas, l'intégralité d'une tribu acceptait l'islam en une seule journée. Ainsi, la tribu Banu Abd al-Ashal a également accepté l'islam de cette manière et elle est devenue musulmane en peu de temps. C'était une branche très connue de la tribu Aws des Ansar. Et le chef des Aws était Sa'd bin Mu'adh. Il était non seulement le chef de la tribu Abd al-Ashal, mais il était également le chef de toute la tribu Aws. Quand l'islam a commencé à grandir en popularité à Médine, Sa'd bin Mu'adh était furieux. et il a tenté d'arrêter son progrès. Ainsi, Sa'd bin Mu'adh était un grand adversaire de l'islam dans un premier temps. Mais il était étroitement lié à Asad bin Zurara, c'est-à-dire ils étaient tous deux cousins. Et Asad était devenu musulman. C'est pour cette raison que Sa'd bin Mu'adh ne s'adressait pas directement à Asad bin Zurara pour éviter tout différend. Sa'd s'est adressé à un autre de ses proches nommé Usayd bin al-Hudayr. Il a dit « Je suis quelque peu gêné de dire quoi que ce soit à Asad bin Zurara, étant donné qu'il a accepté l'islam. Mais toi, va et empêche Moussab de propager cette irréligion ici. » Ainsi, au lieu d'arrêter Asad bin Zurara, va arrêter Moussab et demande-lui de cesser de propager l'irréligion d'une autre région. Et dit à Asad que ce mode de vie n'est pas correct. Usayd était issu des chefs vénérés de la tribu Abdulashal et son père était le chef de toute la tribu Aws pendant la bataille de Bu'ath. Et après Sa'd bin Mu'adh, Usayd bin al-Hudayr avait une influence importante au sein de sa tribu. Par conséquent, suite à l'incitation de Sa'd, il s'est rendu chez Moussab bin Umair et chez Asad bin Zurara. Il s'est adressé à Moussab sur un ton colérique en disant « Pourquoi sèmes-tu les religions chez notre peuple? Cesse ces pratiques où le résultat ne sera pas agréable. » Avant que Moussab ne puisse répondre, Asad s'est adressé doucement à lui en disant « Il est un chef très puissant de sa tribu. Parle-lui avec beaucoup de courtoisie et d'amour. » Par conséquent, Moussab s'est adressé à lui sur un ton très respectueux et aimant et il a dit « Ne vous fâchez pas, veuillez vous asseoir et écoutez ce que nous avons à dire et vous pourrez formuler votre opinion par la suite. » Usayd a trouvé que c'était une proposition logique et il s'est assis. Il était de bonne nature, donc, et il s'est assis pour écouter ce que Moussab avait à dire. Moussab lui a récité le Saint-Coran et l'a éclairé sur les enseignements de l'islam. Usayd était tellement impressionné et ému qu'il a accepté l'islam sur le champ et il a dit « Il existe un autre homme derrière moi. S'il se convertit, toute notre tribu acceptera l'islam. Attendez-moi ici, je vais l'envoyer. » Usayd est parti et suite à quelques excuses, il a envoyé Sa'd bin Mu'adh chez Moussab bin Umair et chez Asad bin Zurara. Sa'd bin Mu'adh est venu et il a dit furieusement à Asad bin Zurara, « Asad, tu abuses de tes relations familiales et cela n'est pas bien. » Moussab l'a calmé tendrement et il lui a dit, « Prenez place ici et écoutez ce que je vous ai à dire. » S'il a quelque chose de répréhensible, eh bien, vous pourrez le rejeter. Sa'd a répondu, très bien, cet appel me semble rationnel. Il a posé sa lance, ensuite il s'est assis. Et de la même manière, Moussab lui a récité le Saint-Coran et il lui a exposé les principes de l'islam. Il l'a fait à sa manière qui était très attirante. Et après quelque temps, cette idole s'est soumise également. C'est-à-dire, Sa'd bin Mu'adh s'était calmé. Ainsi donc, Sa'd bin Mu'adh s'est calmé et selon la coutume, Sa'd a pris un bain et il a récité la kalima shahad. Après cela, Sa'd bin Mu'adh et Usayd bin Hudayr sont partis voir les membres de leur tribu et Sa'd les a interrogés à la manière particulière des Arabes. Il leur a demandé, « Ô Bani Abdul Ashal, quelle est votre opinion à mon sujet ?» Ils ont répondu à l'unisson, « Vous êtes notre chef et le fils de notre chef. Nous avons pleine confiance en vous. » Sarad a répondu, « Eh bien, en ce cas, je n'ai rien à voir avec vous tant que vous n'accepterez pas Allah et son messager. » Après cela, Sarad leur a expliqué les principes de l'islam. Et le soir n'était pas encore venu que toute la tribu s'était convertie à l'islam. Sa'd et Usaid ont brisé de leurs mains les idoles appartenant à leur tribu. Sa'd bin Mu'adh et Usaid bin al-Hudayr ont accepté l'islam ce jour-là et ils étaient comptés parmi les compagnons les plus éminents du Saint-Prophète Mohammed peace be upon lui et les plus éminents parmi les Ansar. Il possédait sans aucun doute un statut éminent. En particulier, Sa'd bin Mu'adh, qui avait le même statut parmi les Ansar qu'Abu Bakr parmi les Muhajirines de la Mecque. Sa'd bin Mu'adh était extrêmement sincère et il était très loyal. Et il était un très grand serviteur de l'islam. Il était dévoué envers l'islam et le prophète de l'islam. Étant donné qu'il était très intelligent, il était le chef de sa tribu. Il acquit une position dans l'islam qui n'était pas seulement distinctive. Il était parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed peace be upon lui. Lors de sa disparition précoce, le saint prophète Mohammed peace be upon lui a prononcé ces paroles. La mort de Sa'd a même ébranlé le trône de Dieu. Ainsi, ces paroles étaient basées sur une réalité très profonde. L'islam s'est répandu rapidement parmi les Aws et les Khazraj, et les Juifs regardaient le spectacle avec terreur, et dans leur cœur, ils se disaient « Dieu seul sait ce qui va se passer ». Nombre de personnes ont embrassé l'islam grâce aux efforts de Mus'ab. En l'an 13 de l'Hégire, il s'est rendu à la Mecque avec une délégation de 70 Ansar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, en puisant de plusieurs sources. Il raconte qu'au cours du mois de Dhul-Hijjah, en l'an 13 du prophète, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et des Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de le devenir et qui s'étaient rendus à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa bin Omer était également de la partie. Sa mère était en vie et bien qu'elle était idolâtre, elle l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a été informée de la venue de son fils Mus'ab, elle lui a envoyé ce message en disant « Viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs ». Mus'ab a répondu « Je n'ai pas encore rencontré le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré ». Ainsi, il s'est présenté au saint prophète Mohammed, peace be upon lui. Et il a informé le saint prophète, peace be upon lui, sur des questions importantes. Puis il est parti visiter sa mère. Sa mère, quant à elle, était très en colère parce que son fils n'était pas venu le rencontrer. Et quand elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer et à se plaindre. Mus'ab a déclaré « Oh ma mère, je vais vous dire quelque chose de merveilleux qui sera très bénéfique pour vous » et qui mettra fin à tout désaccord. Elle a demandé, « Qu'est-ce donc ?» Mus'ab a répondu avec douceur, « Abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane, et croyez dans le saint prophète Mohammed, peace be upon lui. » Sa mère était une fervente idolâtre, et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant, « Je jure par les étoiles, je n'entrerai jamais dans votre religion. » Et elle a signalé à ses proches de capturer Mus'ab, mais celui-ci s'est échappé. Je présenterai d'autres ici à propos de Mus'ab bin Omer. Je m'arrête ici étant donné que je dirigerai la prière funéraire de deux personnes. en l'absence de leur dépouille. Je mentionnerai quelques points au sujet des défunts, et Inch'Allah, à l'avenir, j'évoquerai de nouveau Moussa bin Omer. La première prière funéraire sera celle de Malik Munawar Javed Saeb, fils de Malik Muzaffar Ahmad. Il est décédé le 22 février dernier à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt souffrait du foie depuis un certain temps et il a été hospitalisé 10 jours à la Tahir Heart Institute avant de rendre l'âme. Le défunt était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui son épouse, 4 filles et 2 fils. Le grand-père paternel de Malik Munawar Javed Saeb était le docteur Muzaffar Chaudhry Saeb. Il était originaire de Dharamkot. Et son grand-père maternel était Cheikh Abdul Karim Saeb. Il était originaire de Razipur du district de Sargodha. Son grand-père, quant à lui, était donc originaire de Dharamkot. Ses deux aïeux avaient prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et faisait partie de ses compagnons. Malik Munawar Javed Saeb s'était marié en 1968 à Salma Javed Saheba. Celle-ci est la fille de Sufi Hamid, qui était lui-même le fils de Hafiz Sufi Rola Mohamed, missionnaire de l'île Maurice et compagnon du Messie premier l'Islam. Le docteur Zafar Hussein, un autre compagnon du Messie premier l'Islam, était le grand-père maternel de l'épouse du défunt. Hafiz Sufi Rula Mohamed, missionnaire de l'île Maurice, faisait partie de ses 313 compagnons du Messie premier l'Islam. Ainsi donc, les grands-pères maternels et paternels de Malik Munawar Saeb et de son épouse étaient tous les quatre des compagnons du Messie premier l'Islam par la grâce d'Allah. Malik Munawar Saeb relate comment il avait décidé de dédier sa vie. Il déclare « En 1982, j'ai écouté un discours du quatrième calife prononcé lors de l'ijtima de l'Ansarullah. Dans ce discours, le quatrième calife avait évoqué l'importance du waqf. Et à la fin, il a prononcé une phrase qui disait « Ne souhaitez-vous pas que vous preniez votre dernier souffle en tant que personne dédiée pour la cause de Dieu ?» Cette phrase a été un tournant dans ma vie, a déclaré le défunt, et je me suis demandé si je pourrais moi aussi dédier ma vie. En tout cas, il a pris la décision de se dédier, et il a fait la requête au quatrième calife le 10 août 1983. Feu, le quatrième calife, a approuvé son waqf le 18 août 1983 et il lui a demandé de se présenter après avoir clos ses affaires. En effet, le défunt était un businessman à l'époque. Le 28 août 1983, feu le quatrième calife l'a affecté au département Sanatu Tijarat. Il s'est présenté au département Sanatu Tijarat le 1er octobre 1983 pour débuter ses fonctions là-bas. Avant de se dédier, le défunt avait travaillé pendant 16 ans au sein du secrétariat de l'État du Punjab. Par la suite, Il s'était mis sur son compte pendant 10 ans. En novembre 83, il a été nommé directeur de la revue des religions. En 84, il a été affecté au département de Diafat. Du 20 avril 83 jusqu'en juillet 2016, il a servi en tant que l'adjoint du Nazir de l'hospitalité. Il a aussi servi comme le premier secrétaire du comité sur la tutelle des orphelins lors de la formation du dit comité en 1990. Et il a occupé ce poste pendant environ 20 ans. De 1968 jusqu'en 1970, il a servi au sein de la Khuddamul Ahmadiyya du Pakistan en qualité de caïd de la province et de la région de Lahore. Il a servi pour environ 10 ans. Il a servi au sein de l'Ansarullah de 84 jusqu'en 2014. Au cours d'une période de 31 ans, il a servi en tant que Qaïd du Tahrik Jadid, Qaïd Tarbiyat, Qaïd Ishaat au sein de l'Ansarullah. Et pendant ces 5 dernières années, il a servi en tant que l'adjoint du Sadr de l'Ansarullah du Pakistan. Le défunt relate l'incident suivant qui s'était passé alors qu'il était fonctionnaire. Il déclare que notre chef de service était un adversaire acharné de l'Ahmadiyya et il faisait venir des mollahs pour débattre avec moi. Un jour, il a fait venir l'alama professeur Khalid Mahmoud, qui était un grand érudit de l'époque. Ce dernier a commencé à discuter et quand il était à court d'arguments, il a commencé à m'insulter en colère, comme le font tous les mollahs d'ailleurs. Mon chef avait peur que la situation ne s'envenime. Sur ce, l'érudit a tenté de rassurer mon chef qui s'appelait Abdurrahman. Les paroles de l'érudit démontraient qu'il avait la certitude que les Ahmadis étaient en lien avec Allah l'Exalté. Il a dit, ces gens, c'est-à-dire les Ahmadis, ont commis tant d'outrages contre Allah, contre son prophète et contre le Coran. Ils ont commis tant d'outrages qu'Allah les aurait dû certainement les détruire. Mais Allah ne les a pas détruits jusqu'à présent et ils arrivent à se protéger parce qu'ils pleurent beaucoup dans leur salah. Le défunt a dit à l'érudit, « Allama Sahib, donnez-moi cela par écrit. » Il a demandé pourquoi faire. Si je te donne cela en écrit aujourd'hui, tu vas le publier dans un journal le lendemain. Ainsi, ils sont contraints d'avouer que les prières et les pleurs des Ahmadis leur sont bénéfiques et qu'Allah les écoute. En dépit du fait que nous sommes égarés à leurs yeux, ils sont certains qu'Allah nous écoute. Qu'Allah ouvre les yeux de ces gens. Ils sont en train d'égarer la population et qu'Allah préserve cette dernière de leurs mensonges et de leurs tromperies. Oussama Azhar, l'aide du responsable du département de l'hospitalité, relate ceci. Malik Munawar Jawed était un très bon gestionnaire. Il se levait la nuit pour faire des rondes à la Darul Ziafat et il prenait les rapports des travailleurs. Et si le climat le demandait, il leur fournissait du thé et des œufs. Il était d'une grande bienveillance à l'égard des travailleurs de la Darul Ziafat. Il était au courant de la situation familiale de chacun d'entre eux et tentait de les aider financièrement de manière discrète. Son gendre, qui est aussi son neveu, relate ceci. Le défunt m'encourageait tout le temps à accomplir la salah et à être proche du califat et à servir la religion. Il m'a toujours encouragé en ce sens. Le défunt m'a raconté qu'après sa retraite, il avait décidé de réduire de moitié ses contributions dans les fonds volontaires, étant donné que ses revenus avaient décru. Ainsi donc, il a fait sa liste de contributions et il s'est endormi. Dans un rêve, il a vu qu'Allah est venu à sa rencontre et il lui a dit ceci: « Je suis le maître du monde et j'ai entendu que tu as réduit à moitié tes contributions. Je vais te faire visiter toute ma création. » Le défunt relate: « Allah m'a montré ses montagnes, ses jungles, ses vallées, ses rivières et ses jardins. » Allah a déclaré: « Étant donné que je suis le maître de tout cela, pourquoi te fais-tu des soucis ?» Ainsi donc, j'ai ouvert les yeux et j'ai abandonné l'idée de réduire à moitié mes contributions. Et j'ai continué à contribuer comme dans le passé. Son épouse relate: « Lorsque mon mari faisait des affaires avant qu'il ne se dédie, il plaçait de l'argent dans sa poche et se vêtait de son manteau durant les nuits froides. Et il disait: « Le nécessiteux que je rencontrerai en pareille situation sera certainement dans un grand besoin. » Un jour, il a rencontré quelqu'un qui était très inquiet. L'individu raconta que sa mère était gravement malade et qu'il n'avait pas d'argent. Et il lui a offert toute la somme et il est retourné à la maison. Asif Mujib, missionnaire qui travaille comme aide au Nazir Ziafat, relate: « Parfois, en raison de la foule, on peinait à fournir des logements aux invités. Certains invités utilisaient des paroles très dures devant tout le monde et parfois en venant au bureau. Mais le défunt écoutait tout calmement. Parfois, il présentait ses excuses, les mains jointes. Certains de ses invités qui proféraient ces paroles dures avaient le même âge que ses enfants. Un jour, après le départ des invités, j'ai dit: « Malik Seb, cela me peine beaucoup que vous avez demandé pardon à cet enfant en joignant vos deux mains. » Il m'a répondu: « Pourquoi cela te fait de la peine? C'est bien moi qui ai demandé des excuses en joignant les mains. » D'ailleurs, le Messie promis à l'Islam, qui est l'hôte de ses invités, courait derrière ses invités les pieds nus, afin de les convaincre de retourner. Monsieur Asif relate: « J'étais un jour dans son bureau quand il m'a raconté l'incident suivant. Un vieux était venu dans le bureau et il était tout en colère. Il a dit au défunt: « Est-ce bien toi, Malik Munawar Jawed ?» Le défunt lui a répondu: « Oui, c'est bien moi. » Le vieux lui a demandé: « Est-ce le langar khana de ton père ?» Le défunt a répondu: « Non, mon cher. Il s'agit du langar khana du Messie premier l'Islam, qui est notre père commun. » En entendant cela, il s'est calmé. Et il a raconté avec douceur et de façon aimable ce qu'il avait contrarié. Et ensuite, il est parti. Parfois, les invités outrepassent les limites. Je reçois aussi des plaintes m'informant de ce qui se passe au Darou Ziafat. Mais lorsque je diligente une enquête, il en ressort que les invités manquent également de patience. Certes, nos départements doivent les respecter, mais les invités doivent également faire preuve de haute qualité morale. Et lorsque de telles situations se présentent, il faut essayer de coopérer avec les responsables. Le défunt a rempli à merveille son devoir de waqf. Lorsque j'étais Nazir Allah, le superviseur général, je supervisais aussi la restauration ou le département de la Ziafat, et il était mon adjoint. J'avais remarqué qu'il avait un souci permanent pour les biens de la communauté et il ne se retenait jamais pour dire la vérité. Malgré le fait qu'il était mon adjoint, s'il voyait que quelque chose était plus profitable pour la communauté que ce que j'avais moi-même proposé, alors sans hésiter, il présentait son avis qui allait à l'encontre du mien, en disant que si on agit de la sorte, ce sera mieux. Chaque waqfi zindagi doit cultiver cette qualité en lui, celle d'offrir son avis de façon respectueuse et de la bonne manière. Le défunt avait une grande fidélité envers le califat et il l'exprimait dans chacune de ses lettres. Il m'a rencontré à deux reprises et à chaque fois qu'il me rencontrait, je me rendais compte de cela. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il accorde patience à sa femme et à ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses actions pieuses. La deuxième prière funéraire sera celle du professeur Munawar Shamim Khalid, fils de Cheikh Mahbub Alim Khalid, qui est décédé le 16 février dernier à Rabwa à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père était Cheikh Mahbub Alim Khalid, qui était le premier proviseur et professeur de la TI College. Le troisième calife l'avait nommé Nazim Baytul Mal Ahmad. Il a occupé cette fonction pour une très longue période. Ensuite, le quatrième calife l'a nommé président de l'Anjuman Ahmadiyya. Shamim Khalid était le fils aîné de cette personne. Le défunt laisse derrière lui sa deuxième épouse, Shahida Munawar Shamim, et son fils Khalid Anwar, qu'il a eu de sa première épouse et qui réside actuellement au Canada. En 1964, lorsque le troisième calife était le proviseur du lycée et président de l'Anjuman Ahmadiyya, il avait annoncé le nikah de Munawar Shamim Khalid dans la mosquée Mubarak. Et il avait déclaré à l'époque que le professeur Munawar Shamim Khalid est le fils de mon très proche ami, le professeur Mahbub Alim Khalid. Et Shamim Khalid m'est aussi cher que mes propres fils. Le père du défunt était très proche du troisième calife. Le défunt a servi au sein de la section centrale de la Majlis Ansarullah. Il l'a fait pendant 28 ans. Et tant que les lycées n'ont pas été nationalisés, il a enseigné au lycée TI. Et je pense que même lorsqu'il a été nationalisé, il a passé la majorité de son temps dans ce lycée de Rabwa. J'avais donc mentionné que le défunt était le fils de Mahbub Alim Khalid. Son grand-père était Maulvi Farzan Ali, qui était l'ancien imam de la mosquée de Londres et qui a également servi en tant que Nazir Baytul Mal. La deuxième épouse du défunt, Madame Shahida, écrit ceci. Munawar Shamim Khalid, mon mari, possédait de nombreuses qualités. Sa plus grande qualité et c'est son plus grand amour pour le califat, ainsi que son obéissance. Il écoutait les serments avec une grande attention et il en tirait des points très importants. Il jeûnait, priait régulièrement et il était régulier dans la prière de Tahajjud. Et il accomplissait régulièrement ses cinq prières quotidiennes en congrégation. Lorsqu'il ne pouvait se rendre à la mosquée en raison de sa maladie, cela l'avait beaucoup affecté. Et il disait souvent que je ne peux pas me rendre à la mosquée. Il a fait preuve de beaucoup de patience et de courage durant sa maladie et il ne s'était jamais plaint. Il disait toujours « Alhamdulillah ». Le fait de servir dans la voie de la religion avec sincérité, fidélité et les efforts faisaient partie de ses grandes qualités. Il travaillait discrètement. C'était une personne bienveillante, fidèle, qui s'adressait aux autres de façon aimante. Lorsqu'il enseignait au lycée, j'avais également fait partie de ses élèves. Par la suite, quand je suis devenu amir local, et Nazir Ara, il a toujours été très respectueux à mon égard. Il ne m'a jamais fait ressentir que j'étais jadis son élève. Le défunt était très obéissant envers le califat et envers les responsables de la communauté. Et lorsque j'ai été élu calife, eh bien sa relation était remarquable avec moi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il l'élève parmi ses bien-aimés. et qu'il permette à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres. Après la prière de Juma, je vais, Inch'Allah, diriger la prière funéraire de ces deux personnes.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ